Chapitre 75. 3h14. Endormi en chien de fusil sur le canapé près du poêle, Edward se repose dans un nid de couverture. Même l'eau chaude de la douche ne l'a pas réveillé, et c'est, brièvement tiré de sa torpeur sans ouvrir les yeux tant il était faible, qu'il a appelé son père d'une voix tout juste audible. Davantage rassuré par le ton de ses sauveteurs que par leurs paroles qu'il n'a dû percevoir qu'inconsciemment, le petit a aussitôt ressombré dans un profond sommeil. Ses traits ne traduisent plus l'attention qu'on y lisait. Son visage apaisé pourrait être celui de n'importe quel bambin assoupi en sécurité. Reynard, qui a de bon cœur accepté le kilt sec que lui proposait Thornton, remet en place le coussin sous la tête de l'enfant. Il s'agenouille à son chevet, prend son pouls et vérifie sa température en posant la main sur son front. Thornton se tient en retrait et observe la scène. Comment va-t-il ? Ses signaux vitaux sont revenus à la normale. Son rythme cardiaque est bon, sa respiration régulière, il s'en sort bien. Pauvre gosse. Il revient de loin. Imaginez les peurs qu'il a dû affronter dans la grotte me donne la chair de poule. La faculté de résistance et de récupération des enfants est toujours impressionnante. Chris note que, sans le contrôle qu'il exerce en permanence sur lui-même, le fils Murray paraît beaucoup plus jeune. Débarrassé d'une attitude qui se voudrait adulte, il a enfin l'air d'avoir son âge et n'en devient que plus attendrissant. Reynard remonte une couverture jusqu'à son menton et se relève. Dès qu'il se réveillera, je le raccompagnerai auprès de ses parents. « En attendant, » dit Thornton, saisissant la balle au bond, « nous avons sûrement le temps de déguster notre whisky. Vous l'avez amplement mérité. » Le doyen traverse son espace salon pour rejoindre la table de son coin cuisine. Au passage, il attrape le flacon d'alcool et de verre. Christopher le suit, s'amusant des sensations inédites que porter le kilt provoque sur ses jambes. La première approche est inhabituelle, mais la tradition s'avère finalement très confortable. Les deux hommes prennent instinctivement place, de façon à garder un œil sur le jeune rescapé. Thornton remplit largement les deux verres et invite Chris à trinquer. À Edward, au futur et à vous. À la vôtre, Duncan, avec mes remerciements les plus sincères. Pourquoi donc ? Je n'ai strictement rien fait, à part me prendre un déluge en pleine poire. Ne jouez pas les modestes. Chris désigne le Benjamin endormi. Sans vous, il y serait resté. Révéler l'existence du souterrain avec tout ce que cela implique n'a pas dû être évident pour vous. Pourtant, vous n'avez pas hésité une seconde. Thornton balaie la remarque d'un revers de main. L'exploit n'est pas si grand. D'autant qu'après coup, je m'aperçois que c'est de loin la meilleure décision que j'ai prise depuis longtemps. Vous en êtes là. Thornton sourit. On en est toujours là, jeune homme. Il avale une rasade de whisky et confie. Je ne me rappelle même plus la dernière fois où mon âme s'est sentie à ce point en paix. J'avais d'ailleurs quasiment oublié que j'en avais une. De toute façon, aucune alternative n'était possible. Je ne me serais jamais pardonné qu'un drame de plus se produise parce que j'aurais choisi de garder le silence. Il marque un temps avant de lâcher. N'oubliez jamais ceci, Christopher. Aucun secret ne vaut qu'on lui sacrifie une existence. Kilthorpe est l'endroit idéal pour l'apprendre. Reynard salue le propos en levant son verre. « En toute franchise, » ajoute Thornton, « j'apprécie beaucoup l'idée de ne plus assumer seule la face enfouie de la baie, et j'aime encore plus la perspective de la partager avec un gars comme vous. Il va sans dire que je compte sur votre discrétion pour qu'elle reste secrète. Vous pouvez. » Le doyen se détend et soupire. Il cherche le regard de Chris. Vous tenez désormais votre réponse. À quel sujet ? Vous savez ce que vous valez quand ça devient sérieux. Il s'autorise une autre gorgée en se remémorant. Qui aurait parié sur vous lorsque vous êtes arrivé ? Qui aurait pu prédire que vous seriez celui qui mettrait fin à ce cycle infernal ? Certainement pas moi, ironise Chris. Les deux hommes rient ensemble. Thornton savoure la situation. Grâce à vous, il n'y aura plus de mort, plus de malheur et plus de malédiction. Tout est bien qui finit bien. Le doyen fait preuve d'une bonne humeur que Christopher a du mal à partager. Il ne parvient pas à oublier le prix qu'il a fallu payer pour en arriver là. Tant de gens sont morts et tellement ont souffert. Thornton se resserre un verre sans en proposer à Chris, qui n'a pas encore goûté au sien. Ne sous-estimez pas ce que vous avez accompli, d'autant que vous m'avez assuré avoir une piste concernant l'identité des complices de votre tueur. Ils seront donc vite punis, et tant mieux, pas de quartier. Que justice soit rendue au nom de Linda et de vos prédécesseurs. » Il porte un toast et vide son verre d'un trait. Chris se frotte le menton. « Ce n'est pas le volet contemporain qui me pose le plus de problèmes. Je pensais davantage aux interrogations concernant le passé. Certaines restent sans réponse. Ce que je vous ai révélé n'éclaire pas les zones d'ombre ? Pas toutes. Vous aurez tout le temps d'y réfléchir lorsque le soleil sera levé. Moi, je dormirai à point fermé. Grâce à vous, Christopher. » Les effets de la fatigue et de l'alcool se cumulant, les gestes et la diction du doyen perdent en précision. Constatant que l'humeur de son cadet ne s'améliore pas, Thornton grogne en le désignant de l'index comme s'il était un drôle d'animal. « Vous voilà bien contrarié, mon garçon, cela m'attriste. Je vous aime bien. Vous savez, j'étais sincère quand je vous ai pris dans mes bras tout à l'heure. Je n'en ai jamais douté. La dernière fois que j'ai étreint quelqu'un comme ça, c'était mon fils, Cameron. » C'est la première fois que Thornton mentionne le prénom de son enfant disparu. Et il l'a fait avec un naturel confondant, malgré ce que doit représenter le souvenir de sa perte. Regarde des visages son aîné, dont le regard semble soudain s'être perdu. Il n'a ni les mots ni les gestes pour réagir avec l'empathie qu'il éprouve. « Allez, » enchaîne Thornton, « balancez-moi ce qui vous travaille ainsi l'esprit. » Chris esquisse un geste pour signifier que ces questions sont sans importance, mais Duncan insiste. « Je parie que je suis en mesure de vous éclairer. Nous formons un bon tandem, ne gardez pas ce qui vous torture pour vous. Croyez-moi, ce n'est jamais bon. » Renyard n'hésite qu'un instant avant de se résoudre à parler. « Je paierai cher pour savoir comment les jouets de la petite Ailey se sont retrouvés dans une niche au fond d'un puits. J'ai beau tout envisager, je ne pige pas. »« Ces jouets, dites-vous ? » ?»« Un petit cheval de bois taillé et son cavalier. » Peter les évoque dans ses notes pour expliquer que, lorsque sa sœur est miraculeusement réapparue après le massacre, elle a refusé de révéler ce qui s'était passé, confiant simplement que son enfant s'était resté avec eux dans ce trou. Vous n'imaginez pas le choc que j'ai eu en les découvrant. Alors que l'émotion ressurgit en lui, Chris secoue la tête, fataliste, à l'idée de ne jamais trouver la réponse à ce mystère. Lorsqu'il relève les yeux, il s'aperçoit que Thornton s'est figé et le fixe de son regard si perçant. Le doyen n'a tout à coup plus l'air ni d'un vieillard fatigué, ni d'un homme qui aurait trop bu. Il a retrouvé toute sa lucidité. L'Écossais pose ses mains bien à plat sur la table. Il est comme en apnée. Sur son visage se succèdent plusieurs expressions qui s'entremêlent sans qu'il les maîtrise. Sous l'effet des émotions qui l'assaillent, ses traits traduisent tout à tour l'étonnement, une profonde mélancolie, puis l'incrédulité. Lorsqu'il réalise que Chris l'observe, il se reprend, cherchant à canaliser le flot de sentiments contradictoires qui l'emplit. Ce qu'il dégage alors évolue encore. Un sourire se dessine progressivement sur sa face, doux, énigmatique, pour aboutir à l'attitude la plus émouvante que Christopher ait jamais captée chez un être humain. Il perçoit désormais de la compassion en plus du reste, du désespoir aussi. « Duncan, qu'est-ce qui vous arrive ? Ai-je dit quelque chose qui… Vous n'y êtes pour rien, tout va bien. » Thornton inspire profondément. « Le monde est en ordre. Les éléments auront mis le temps, mais ils s'agencent à présent comme ils le devaient. Je ne vous suis pas. Expliquez-vous. » Quelque chose a changé chez Thornton. C'est au-delà du physique. Il ne paraît plus ni malheureux, ni même surpris. Il émane de lui un sentiment de paix intérieure, propre à dépasser toutes les douleurs. « Ces jouets, » demande-t-il, « vous les avez récupérés ?»« Oui, je pourrais vous les remettre si cela peut vous faire plaisir. »« Non, gardez-les. Il est finalement logique qu'ils vous reviennent. »« Duncan, s'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. » Le sourire du doyen gagne encore en bienveillance. « Christopher, vous venez de m'aider à boucler la boucle. Grâce à vous, tout s'équilibre. Et vous me donnez la force de prendre la décision la plus évidente de ma vie. Plus rien n'empêchera l'histoire de s'achever. Et c'est bien ainsi. » Puis en regardant son cadet comme il ne l'avait jamais fait, il souffle. « Décidément, mon garçon, cette nuit restera spéciale. Et je suis heureux de la vivre avec vous. » Ne bougez pas. J'ai un cadeau pour vous.